Ce balado a été produit par la Revue hybride de l'éducation, une revue scientifique gérée par le département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'enregistrement peut être utilisé sans frais à des fins personnelles, scientifiques et éducatives. Les droits d'auteur appartiennent aux auteurs et à la Revue hybride de l'éducation. Pour rendre l'écoute plus conviviale, des éléments comme les figures, les tableaux, les contenus entre parenthèses, les notes de bas de page et les références bibliographiques ont été supprimées de l'article original. L'article original peut être consulté à partir du site web de la Revue hybride de l'éducation. Cet article s'intitule « Des enfants citoyens engagés avec leur père, leur environnement et leur éducatrice ou enseignante lors de jeux en nature ». Il fait partie du volume 10 numéro 2 paru en 2026. Les autrices sont Elisabeth Jacob et Marie-Michèle Tremblay de l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que Marie-Laurence Tremblay de l'Université de Sherbrooke. Problématique. Mondialement, l'enfant est reconnu comme une personne citoyenne à part entière, notamment dans l'application de la loi 31 dans la Charte de la Convention relative des droits des enfants, Nations Unies, 1989. Cette citoyenneté est aussi reconnue explicitement dans le programme Accueillir la petite enfance, Ministère de la Famille et EMF, 2019, et elle se déploie à travers certains fondements du programme Cycle de l'éducation préscolaire, Ministère de l'Éducation du Québec MEQ, 2023. Les expériences vécues quotidiennement dans les contextes éducatifs à la petite enfance permettent aux enfants d'être des citoyens actifs et des membres participatifs de cette communauté, McNaught-Néal, 2007, Payne-Néal, 2020, Phillips et Moronet, 2017. Ces contextes éducatifs leur donnent l'occasion d'exercer leur identité, leurs droits et leurs responsabilités par une participation active, Corsen-Néal, 2022. C'est en jouant que les enfants vont s'exercer à être des personnes citoyennes puisque les jeux sont riches en interactions sociales où ce contexte ludique représente une mini-société, ADER, 2014, ADER-Néal, 2017, Payne-Néal, 2020. Dans les programmes éducatifs québécois de la petite enfance, le jeu occupe une place centrale. Il est le contexte idéal pour permettre aux enfants d'apprendre et de se développer, MEQ, 2023, MF, 2019. Il existe plusieurs types de jeux auxquels les enfants peuvent s'adonner, dont le jeu en nature qui se décrit comme des périodes fréquentes de temps. Ininterrompu passé dans des environnements naturels extérieurs comportant des éléments naturels multiples et variés, ACHMAN, 2014, Landry et Hall, 2021. Ces jeux en nature contribuent au développement des enfants, que ce soit sur le plan moteur, affectif, social, langagier et cognitif, Camp et Hall, 2016, d'autant plus qu'ils sont bénéfiques pour leur santé, Danke et Hall, 2020, Harrington et Brussoni, 2015. Au Québec, depuis quelques années, l'éducation par la nature tend à faire tranquillement sa place dans les pratiques éducatives, tant auprès des personnes éducatrices que des personnes enseignantes. Plusieurs initiatives locales et régionales y sont en émergence, PX. Projet Alex de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, garderie nature, école en forêt dans le Bas-Saguenay, et ce, malgré des défis auxquels sont aux prises les personnes éducatrices, voire aussi les personnes enseignantes, dans l'utilisation de cette pédagogie, La Fontaine, 2020. Rappelons que l'éducation par la nature englobe l'apprentissage actif et la découverte des propriétés, des objets, des phénomènes et des processus dans un environnement naturel, Meyer et Siskilton, 2013. En outre, cette pédagogie émergente permet aux enfants de jouer librement dans un milieu naturel et de développer leur jeu Eubibienne, 2015, Robertson et Hall, 2019. Cet environnement procure plus de temps, d'espace et de ressources, PX. Matériel naturel, matériel flexible et ouvert, que l'environnement intérieur pour permettre aux enfants de développer leur jeu et leur créativité, Harris, 2016. Une recherche récente en petite enfance a démontré comment les enfants s'engagent envers leurs pères, leurs éducatrices et leur environnement en contexte d'éducation par la nature, Coutet et Hall, 2023. Une autre a examiné les comportements prosociaux des enfants dans cet environnement naturel, Lévesque-Desrosiers, 2020. Toutefois, ces recherches n'abordent pas de manière spécifique la manière dont les enfants exercent leur citoyenneté, et ce, même si les comportements prosociaux sont associés à la citoyenneté des enfants, Ryder et Cricken-Robson, 2023. De plus, la majorité des recherches portant sur le jeu et la citoyenneté des enfants se réalisent dans des environnements intérieurs et négligent l'environnement extérieur, Illy et Hall, 2016. Bien que l'éducation par la nature en petite enfance ait tranquillement fait sa place dans les milieux de pratique, ce champ de recherche est encore à explorer, Bouchard et Leboeuf, 2020. Par conséquent, de nouvelles recherches seront nécessaires pour comprendre la manière dont les environnements des enfants, y compris les espaces de jeux naturels, leur permettent d'agir en tant que personnes citoyennes. E. Brown et Kay, 2017, Payne et Hall, 2020, Phillips et Hall, 2020. La citoyenneté est un concept encore peu documenté dans les recherches en petite enfance, Uchou, 2023, particulièrement au Québec, et il y a lieu de s'y intéresser dans un contexte ludique d'apprentissage tel le jeu Eugène, 2004, Larkin, 2014. Par ailleurs, cette recherche, qui s'inscrit dans l'approche d'éducation par la nature, Hunter et Hall, 2019, permettra de comprendre quel rôle les personnes éducatrices et enseignantes mettent en place. Pour développer les jeux en nature ainsi que ceux permettant de cultiver et de soutenir les actions des enfants à la vie citoyenne, Astuto et Ruck, 2017, 2010, Haas et Ashman, 2014, Richie et Lambert, 2018. Cet article a ainsi pour objectif de présenter une partie des résultats de ce projet. Cadre théorique ou conceptuel. La citoyenneté des enfants et l'éducation à la citoyenneté. La citoyenneté des enfants est différente de celle des adultes, Jans, 2004. Listé, 2007, Chou, 2022. Ce concept est reconnu comme une construction historique et culturelle dans laquelle les enfants s'engagent dans un processus dynamique et continu de l'apprentissage, Phillips et Hall, 2020, Chou et Richie, 2024, Jans, 2004. Le concept de la citoyenneté des enfants est complexe à définir en raison de son évolution au cours des dernières années et du fait qu'elle touche à plusieurs domaines et disciplines, Constant et Hall, 2017. Toutefois, il y a un certain consensus chez les auteurs qui définissent la citoyenneté des enfants selon certaines dimensions, comme les droits, Agence, 2004, McNaughton et Smith, 2007, les responsabilités, Pagé, 2001, Agence, 2004, Phillips et Moronet, 2017, l'identité, Agence, 2004, Pagé, 2001, Phillips et Moronet, 2017, et la participation au sein de la communauté, Pagé, 2001, Phillips et Moronet, 2017. Phillips et Hall, 2020, Richie et Lambert, 2018, Sierra Cedillo et Hall, 2019. En éducation à la petite enfance, les travaux de Phillips, 2010, et de Phillips et Moronet, 2017, ont mis en évidence cinq composantes de la citoyenneté des enfants. L'identité civique, la responsabilité collective, la faculté d'agir, la délibération civique et la participation civique. Les auteurs décrivent l'identité civique comme la façon dont l'identité est définie dans la participation à la communauté. La responsabilité collective concerne la prise en charge et le souci des autres ou encore la responsabilité envers la communauté. La faculté d'agir comprend les possibilités et les paramètres d'action des membres dans la participation communautaire. La délibération civique est la prise en compte des valeurs et des points de vue de diverses communautés. La participation civique est l'action collective pour le bien de tous dans la communauté. Le tableau 1 identifie des actions civiques qui peuvent être exercées par des enfants en contexte éducatif de la petite enfance pour chacune des composantes. Aujourd'hui, l'éducation à la citoyenneté reconnaît que les enfants sont des personnes compétentes et des personnes citoyennes à part entière, Bat et Carlson, 2016, Phillips, 2010. Selon A.C. Ashman, 2014, le contexte d'éducation par la nature serait idéal pour permettre aux enfants de développer leur citoyenneté, A.C. Ashman, 2014. Les milieux de la petite enfance sont une première représentation de la société pour les enfants et ils initient ces derniers au processus et aux valeurs démocratiques, Adair et Hall, 2017. En outre, ils sont de puissants agents de socialisation, Astuto et Rock, 2010. L'objectif de l'éducation à la citoyenneté est de permettre aux enfants de développer un sentiment d'efficacité et un sentiment d'appartenance pour exercer leur citoyenneté dans l'ici et maintenant, Adair et Hall, 2017, Constant et Hall, 2017. Pour instaurer de telles pratiques, les adultes doivent écouter les enfants et leur redonner un statut social, Barry, 2008. L'installation d'une relation collaborative et démocratique avec les enfants afin de leur redonner le pouvoir est aussi une pratique à envisager, bien qu'elle demeure un défi en fonction du contexte, des valeurs et des interventions des adultes, Le Gall, 2008, Ryder et Robson, 2023, Sierra Cedillo et Hall, 2019. Encourager les actions civiques des enfants et les soutenir est, de fait, un autre élément de la pratique à mettre en place en contexte éducatif de la petite enfance, Phillips et Hall, 2020. Les jeux en nature. Le jeu est depuis longtemps étudié par les chercheurs et ceux-ci reconnaissent son importance pour le développement des enfants, Pellegrini et Hall, 2007. Brostum, 2017, le définit comme une activité productive et créative à laquelle les enfants participent activement et durant laquelle ils peuvent interagir et communiquer avec les autres, ce qui ouvre ainsi la voie à leurs apprentissages. Le jeu comprend certaines caractéristiques, comme celle de la frivolité, de la liberté et du choix, de l'absence de règles externes et du plaisir, et Brugère, 2005, Lemay et Hall, 2019. La caractéristique « libre » qu'on donne à l'expression « jeu libre » est un attribut donné par les adultes pour la distinguer d'une activité plus structurée ou d'une activité ludique, Leclerc, 2021. Toutefois, les enfants définissent le jeu comme une activité plaisante et libre, où ils ont l'occasion de faire semblant et de décider, Enars de Tir, 2017, Pile et Akala, 2018. En considérant leur point de vue, le concept du jeu est en soi une activité « libre » pour les enfants. Dans les jeux en nature, plusieurs autres types de jeux peuvent apparaître, Landry et Hall, 2021. Plusieurs auteurs ont catégorisé le jeu selon diverses taxonomies, que ce soit en fonction des interactions sociales, des caractéristiques du jeu ou encore de l'utilité du jeu pour le développement des enfants, Kanté et Hall, 2023, Landry et Hall, 2021. Tout récemment, les jeux en nature ont aussi fait l'état d'une catégorisation, Lobach et Cox, 2020. Dans le cadre de cette étude, le classement de Landry et Hall 2021, qui comprend sept types de jeux, a été utilisé, puisqu'il offre plusieurs possibilités pour s'arrimer au contexte éducatif québécois de la petite enfance. D'abord, dans le jeu exploratoire, les enfants évaluent les possibilités d'un objet ou d'un environnement donné, par exemple en découvrant le fonctionnement d'un objet ou en manipulant des branches d'arbres ou des textures inhabituelles comme la terre ou Gouéon et Schulz, 2019. Ensuite, dans le jeu de construction, les enfants créent une structure, Thériault et Doucet, 2018. En nature, il pourrait notamment s'agir de construire une cabane avec des branches. Le jeu symbolique, quant à lui, consiste en un jeu de faire semblant où les enfants peuvent transformer des objets, PX. Transformer une branche en épée, en un scénario de jeu plus complexe, PX. Faire semblant d'être des loups dans la forêt. Il y a également le jeu de règles, qui comporte un code à respecter, Landry et Hall, 2021. Bien que souvent associé à des jeux de table avec des règles, il se décline en différentes catégories, Filion, 2021. En nature, il serait possible d'observer un jeu sportif et moteur. Landry et Hall, 2021, inclut aussi le jeu turbulent, parfois appelé le jeu de bagarre ou le jeu tumultueux. Les enfants jouent à se battre, à se pousser et à se tirailler. Les auteurs détaillent par la suite le jeu risqué, lequel comprend six variétés de jeux qui amènent les enfants à prendre des risques, Sandsté, 2007. En nature, il pourrait notamment s'agir d'un jeu où des enfants grimpent à un arbre, sautent d'un rocher ou font semblant de disparaître. Enfin, le jeu actif à l'extérieur est un jeu d'intensité variée où les enfants expérimentent la liberté de mouvement, PX. Courir, sauter, lancer, grimper. Les objectifs de la recherche. Le projet de recherche plus vaste dans lequel s'inscrit cet article avait pour but 1. De raconter les scénarios de jeu conçus par des enfants dans un environnement naturel. 2. D'identifier les situations de jeu durant lesquelles les enfants s'engagent dans des actions civiques au sein d'un environnement naturel avec ou sans l'aide de l'adulte. 3. De décrire des exemples de pratiques d'éducatrices et d'enseignantes qui soutiennent les jeux et les actions civiques des enfants. 4. De partager ces exemples de pratiques entre les deux contextes éducatifs de la petite enfance. Le présent article s'attardera aux objectifs 2 et 3 de cette étude. Méthodologie. Pour répondre aux objectifs de la recherche, une recherche collaborative selon le modèle de Degagné, 2001, a été menée. La recherche collaborative considère les praticiens comme des experts de leur pratique, Orususo et Hall, 2020, Degagné, 2001, Jacob et Hall, 2021. Cette recherche s'inspire de quelques fondements de la recherche. Participative avec les enfants et leur éducatrice ou enseignante, Fleuit et Ange, 2020. La recherche participative avec les enfants et les personnes éducatrices ou enseignantes suppose que ces dernières et les enfants sont des acteurs experts internes de leur milieu. Alors que la personne chercheuse est perçue comme une actrice experte externe, tous les trois travaillant ensemble pour coproduire de nouvelles connaissances, Fleuit et Ange, 2020. Les principales tâches de recherche sont effectuées par la chercheuse et son équipe de recherche, mais la collaboration de tous est nécessaire. Les participants. Deux éducatrices et six enseignantes à l'éducation préscolaire de la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean ont été recrutées et invitées à participer au projet de recherche selon une technique non probabiliste d'échantillonnage, Beau, 2009, Fortin et Gagnon, 2022. Un service de garde avait déjà été ciblé par la chercheuse et une lettre de partenariat avait été signée lors de la rédaction de la demande de financement. Pour participer à la recherche, les personnes éducatrices et enseignantes devaient répondre à deux critères de recrutement, avoir de l'intérêt pour le projet et déjà mettre en pratique la pédagogie de l'éducation par la nature. Les conseillères et conseillers pédagogiques des quatre centres de services scolaires de cette région ont ensuite aidé au recrutement des enseignantes. Les deux éducatrices participantes organisaient quotidiennement une sortie en nature avec les enfants de leur groupe, 10 enfants par groupe. Au total, 6 enseignantes de maternelle 5 ans, dont 3 enseignent dans la même école, ont participé au projet. Le nombre de sorties variait entre une et deux fois par semaine selon l'enseignante. Par la suite, un formulaire de consentement a été envoyé à toutes les familles des enfants dont l'éducatrice ou l'enseignante souhaitait participer au projet. Les familles étaient libres d'accepter ou de refuser que leur enfant y participe et pouvaient se désister à tout moment. Pour obtenir l'assentiment des enfants, la chercheuse est allée leur présenter le projet. Ils se sont également familiarisés avec la recherche. Chaque enfant était libre de dessiner un autoportrait, d'y écrire son prénom ainsi que de dessiner la caméra, objet qui était à leurs yeux représentatif du projet. L'image montre l'assentiment de certains enfants. Au total, 114 enfants répartis dans 8 groupes ont participé au projet. Les outils de collecte de données. Un entretien semi-dirigé a été réalisé avec chacune des participantes pour mieux comprendre ses pratiques en éducation par la nature. Ensuite, une activité réflexive, au cœur de la démarche participative des recherches collaboratives, Bednarz et al., 2020, Degagné et al., 2001, a permis au groupe de participantes et aux membres de l'équipe de recherche de réfléchir collectivement aux pratiques qui soutiennent les jeux en nature et les actions civiques des enfants. Durant ces 3 rencontres, chacune était libre de s'exprimer ou non et de partager des pratiques. Des séquences de jeux filmées par la chercheuse étaient montrées aux participantes afin de servir de point de discussion. Des observations non participantes, filmées et photographiées, se sont déroulées principalement de janvier à mai 2023 en vue de rendre compte plus finement des pratiques, mais aussi pour tenir compte de l'agir des enfants, Robert Mazet et al., 2021, c'est-à-dire des situations de jeu dans lesquelles ils s'engagent et des actions civiques qu'ils mettent en pratique, objectifs 1 et 2. Pendant cette période, 2 observations par mois ont été réalisées dans chacun des milieux, d'une durée approximative d'une heure 30 minutes. La chercheuse ou une assistante filmait une séquence de jeu du début, milieu, fin. Chaque séquence pouvait durer environ 6 minutes. Lorsqu'un groupe d'enfants invitait la chercheuse ou son assistante, celle-ci se déplaçait pour les observer. Le tableau 2 montre le nombre d'observations réalisées dans chacun des milieux et le nombre de vidéos de jeux analysées. C'est à partir de ce dernier outil que seront principalement présentés les résultats de cet article. Le déroulement du projet. La première étape, celle de la familiarisation avec le contexte de la recherche, Barley et Bat, 2014, a duré environ 2 semaines. Elle consistait pour la chercheuse et les assistantes de recherche à entrer dans chacun des milieux pour apprendre la routine et les règles, pour construire des relations avec les participantes et pour initier les enfants à la recherche, PX. En expliquant le projet, en leur décrivant la caméra et ce que nous allions faire. Cette première étape s'est déroulée à l'intérieur de la classe lors des moments des jeux libres. La deuxième étape, le cœur de la collecte de données, a duré environ 6 mois et s'est échelonnée de novembre 2022 à la fin mai 2023. L'entretien semi-dirigé a été réalisé durant les mois de novembre et de décembre. Par la suite, beau temps ou mauvais temps, mais surtout selon le calendrier de sortie en nature des éducatrices et des enseignantes, la chercheuse ou une assistante était présente pour réaliser les observations. Même si ces sorties se déroulaient sur une base quotidienne pour les éducatrices et hebdomadaire pour les enseignantes, 2 observations par mois étaient réalisées pour ce projet. Durant ces moments, la chercheuse ou l'assistante pouvait à tout moment questionner les enfants sur les jeux en nature. Toutefois, l'adulte présent prenait garde à ne pas brimer, voire arrêter le jeu des enfants, ou encore, à ne pas nuire aux actions civiques observées. En fait, la chercheuse ou son assistante devait maîtriser l'art d'interagir avec les enfants lorsque le jeu s'arrêtait, Jacob, 2024. Les rencontres réflexives ont eu lieu à 3 temps différents durant la collecte de données, janvier 2023, mars 2023 et juin 2023. Elles ont donné l'occasion aux enseignantes de valider leurs pratiques entre elles et d'échanger autour du concept des jeux en nature, mais aussi celui de la citoyenneté des enfants et des actions civiques. Durant ces rencontres, les échanges pouvaient donner lieu à de nouvelles significations, de nouvelles ouvertures, de nouveaux possibles, ce qui constitue une joute narrative, Robichaud et Schwimmer, 2020. La vérité n'appartient pas seulement aux participants ou encore aux chercheurs, mais elle est bien co-construite par le maillage des expertises, Jacob et al., 2021. Le traitement et l'analyse des données. Pour analyser les données des objectifs 1 et 2, les scénarios filmés ont d'abord été classés en 2 catégories, ceux qui constituaient des jeux et ceux qui constituaient du non-jeu. Seules les vidéos classées dans la première catégorie ont été analysées, voire tableau 1. Ensuite, chaque vidéo a été extraite et découpée en unités de sens, qui correspondaient au début, au milieu et à la fin du scénario, Théobald, 2017. L'utilisation du logiciel NVivo a permis de relier chacune des unités de sens aux différentes catégories, PX. Forme de jeu, action civique, rôle des personnes éducatrices ou enseignantes. Pour l'objectif 2, une moyenne de la fréquence des thématiques, PX. Action civique versus les formes de jeu, a aussi été réalisée. Chaque entretien, de même que la rencontre réflexive qui s'ensuivait, a été transcrit et analysé. Pour les quatre objectifs, une analyse thématique a aussi été conduite, qui consiste à utiliser un thème pour chaque élément en cohérence avec le cadre conceptuel et théorique, Payet et Micheli, 2021. Un arbre thématique est présenté à l'annexe 1 avec les principales catégories et sous-catégories utilisées dans le cadre de cette recherche. La diffusion et la vulgarisation de la recherche. Durant la collecte de données, l'équipe de recherche s'est assurée de vulgariser rapidement la recherche aux participants, c'est-à-dire aux éducatrices, aux enseignantes, aux enfants et à leurs familles. La chercheuse s'est assurée que les outils de diffusion étaient accessibles pour les jeunes participants, au Brown, 2021. Pour y arriver, certains outils utilisés en recherche participative avec les enfants ont servi d'outils de diffusion et de vulgarisation, notamment un livre des jeux en nature, Clark, 2017, et une vidéo éditée de 20 minutes, Hayashi et Tobin, 2012, de chacun des milieux éducatifs. Le livre a été produit au fur et à mesure des sorties en nature, la situation de jeu accompagnée de photos y est décrite en considérant la voix des enfants. Chaque vidéo de 20 minutes a été projetée aux familles et aux enfants lors d'une demi-journée à l'école ou au service de garde. Elle a aussi été partagée aux autres enseignantes et éducatrices lors de la rencontre réflexive 3, leur permettant ainsi de poursuivre la réflexion sur leur partage de pratiques. Résultats. Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus concernant les objectifs 1 et 2 de la recherche, qui sont respectivement de raconter les scénarios de jeu conçus par des enfants dans un environnement naturel et d'identifier les situations de jeu durant lesquelles les enfants s'engagent dans des actions civiques au sein d'un environnement naturel avec ou sans l'aide de l'adulte. Pour y arriver, nous identifions d'abord les types de jeux en nature réalisés par les enfants, puis les actions civiques des enfants en fonction des types de jeux. Trois jeux sont ensuite décrits en fonction des actions civiques qui leur sont associées. Les types de jeux en nature. L'ensemble des 460 séquences de jeux analysées montre que les enfants jouent à différents types de jeux. Les jeux symboliques, occurrence égale 224, les jeux de construction, occurrence égale 146, et les jeux exploratoires, occurrence égale 128, sont ceux joués en plus grand nombre sans distinction du milieu éducatif. Les jeux actifs à l'extérieur, les jeux risqués, les jeux turbulents et enfin les jeux de règles sont joués moins souvent. Le tableau 2 montre de façon précise les diverses fréquences des types de jeux observés en fonction des milieux éducatifs de la petite enfance. Comme le montre le tableau 2, le jeu symbolique est la forme de jeu la plus observée dans chaque milieu éducatif, que ce soit en classe d'éducation préscolaire ou encore en service de garde éducatif à l'enfance. Le jeu de construction est la deuxième forme de jeu la plus observée pour chaque milieu, à l'exception de la classe de l'enseignante 4, pour qui le jeu actif à l'extérieur semble celui le plus joué par les enfants. La citoyenneté des enfants dans les jeux en nature. Les enfants vont s'engager dans différentes actions civiques avec ou sans l'aide de l'adulte. L'ensemble des 460 vidéos analysées montre que les enfants s'engagent avec leur père, sans l'aide de l'adulte, dans des actions civiques dans une proportion de 64,13% du temps, 295 vidéos, alors que l'adulte intervient dans les situations de jeu dans une proportion de 35,87%, 165 vidéos, pour soutenir les jeux ou encore les actions civiques. Le tableau 3 identifie les types de jeux en fonction des composantes de la citoyenneté. Les enfants exercent leur identité davantage dans les jeux symboliques, les jeux exploratoires et les jeux de construction. La responsabilité collective est plus présente dans les jeux de construction, les jeux exploratoires, les jeux symboliques et les jeux risqués. Les composantes de la faculté d'agir et de la participation civique s'observent plus souvent dans les jeux symboliques, exploratoires et de construction. Les enfants délibèrent davantage dans les jeux symboliques que dans les autres types de jeux. Afin de mieux expliquer comment les enfants s'engagent dans des actions civiques avec ou sans l'aide de l'adulte, trois jeux sont racontés et permettent d'analyser plus finement la manière dont les enfants exercent leur citoyenneté. Ces jeux ont été sélectionnés puisqu'ils présentaient des types de jeux différents et une variété d'actions civiques. La description de trois jeux. Jeu 1, le jeu de la billetterie pour se glisser. Des enfants s'amusent à se glisser le long d'une butte de neige. Sophia a décidé de faire une billetterie pour la glissade afin d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Elle gère l'achalandage et s'assure que tous puissent se glisser sécuritairement. Elle commence par ouvrir et fermer la barrière, représentée par un bâton de bois qu'elle a trouvé dans la forêt, lorsque les enfants se présentent à la glissade. Son enseignante qui observait s'approche. « Combien c'est le billet pour l'entrée ?» Sophia lui répond que les billets sont à 2 $, mais elle change d'idée. « C'est 3 $, les prix ont changé. » Lorsque les enfants veulent s'élancer dans la glissade, ils font semblant de lui donner de l'argent. Une fois qu'ils ont payé leur entrée, Sophia ouvre la barrière et les enfants peuvent se glisser. En faisant la gestion de l'entrée à la glissade, Sophia s'assure de la sécurité de ses amis. Par exemple, elle leur dit « Attends, tu ne peux pas encore passer, il y a trop de monde. » Dans cette situation, l'enfant pose plusieurs actions civiques. D'abord, Sophia supprime les possibles dangers en s'assurant qu'il n'y a pas trop d'enfants en même temps qui se glissent sur la butte, responsabilité collective. De plus, lorsqu'il y a trop d'enfants sur la butte, elle demande aux amis en haut de celle-ci de patienter le temps que des enfants quittent la butte, responsabilité collective. Elle saisit les ressources disponibles en utilisant un bâton trouvé dans la nature pour représenter une barrière, faculté d'agir. Les enfants se déplacent librement dans la forêt et utilisent une butte de neige pour se glisser, faculté d'agir. En refusant l'entrée à son ami, elle varie son langage pour soutenir son accord afin de lui expliquer le danger potentiel si elle le laisse se glisser à ce moment précis, délibération civique. Jeu 2. La construction du piège. 4 enfants, Elliot, Lucas, Nathan et Mathias, fabriquent un piège dans un trou de terre. Ils utilisent des cordes qu'ils ont trouvées pour créer leur piège. Elliot, Madame enseignante 6, viens voir notre piège. En attendant Madame enseignante 6, Nathan se déplace et met son pied dans le piège. Nathan, je vais l'essayer. Mathias, non. C'est seulement pour Lucas, le piège. Nathan enlève son pied du piège et retourne en arrière du piège. Nathan recommence à taper la terre pour fermer le piège. Madame enseignante 6 arrive et leur demande comment ils ont fait pour fabriquer leur piège. Les enfants sont fiers de le lui expliquer. Ils tendent les cordes et lui expliquent le fonctionnement du piège. Dans cette situation, les enfants sont fiers de montrer leur réalisation à leur enseignante, identité civique. Les enfants saisissent les ressources disponibles, faculté d'agir, ils creusent dans la terre un trou pour construire leur piège. De plus, ils utilisent des cordes qu'ils ont trouvées pour le construire. Les enfants prennent également en compte d'autres perspectives et varient leur langage pour soutenir l'accord, délibération civique. Lorsque Nathan veut vérifier si le piège fonctionne, Mathias n'est pas d'accord, il explique pourquoi il ne veut pas que Nathan essaie le piège. De plus, celui-ci respecte l'explication de Mathias et se retire du piège. Enfin, les enfants travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun, participation civique, celui de construire leur piège. C'est une collaboration. Tout le monde participe et est inclus, participation civique. Jeu 3. Le jeu exploratoire. De quel arthropode s'agit-il? Dans le groupe de l'éducatrice 1, Édouard, William et Marc-Olivier se préparent pour creuser un trou proche des racines d'un arbre. Ils distribuent des branches pour creuser. William, je te donne lui, toi tu as lui. Édouard, 3 bâtons pour moi. William à Marc-Olivier. Tu as une bébite sur ton ça, sur ton bras regarde, c'est dangereux. C'est un scorpion, ça pique vraiment. Marc-Olivier, où ça? William, regarde, je vais te le montrer. Marc-Olivier crie. William, il y avait un scorpion sur le bras, sur le manteau à Marc-Olivier, j'aime pas les scorpions. Édouard, c'était pas un scorpion, c'était une chenille. William, c'est pas une chenille, ça a des petites pattes, puis une chenille ça n'a pas de pattes. Édouard, oui, une chenille ça a des mini-pattes. Marc-Olivier, ouais, il a raison. William, puis les scorpions aussi. Je te le dis. Marc-Olivier, les chenilles ont des pattes, c'est juste qu'elles sont minuscules. Dans cette situation, William identifie les dangers de l'environnement, responsabilité collective, en avertissant son ami qu'il a un arachnide sur son bras. Sur le moment, il croit que c'est un scorpion. Il l'avertit que cet arachnide est dangereux puisqu'il pique. Les garçons saisissent les ressources disponibles dans la nature, faculté d'agir, et se préparent à utiliser des branches pour creuser un trou dans la terre. Les garçons vont tour à tour varier leur langage pour soutenir leur accord et répondre au désaccord par une offre alternative et délibération civique, en négociant par rapport au type d'arthropode qui se trouve sur le bras de Marc-Olivier. En effet, Édouard est en désaccord avec William. Selon lui, sur le bras de Marc-Olivier se trouve une chenille et non un scorpion. Malgré cela, William réitère son point de vue que cela ne peut pas être une chenille, car l'arthropode a des pattes. De ce fait, il varie son argument pour soutenir l'accord. Édouard est d'accord avec William sur le fait que les scorpions ont des pattes, mais il lui affirme tout de même que les chenilles aussi. Discussion. La discussion aborde deux principaux éléments, soit la variété des jeux en nature observés ainsi que le jeu symbolique comme forme de jeu pour s'exercer à la citoyenneté. Des jeux variés en contexte d'éducation par la nature. Les résultats montrent que les enfants âgés de 4 à 6 ans fréquentant des milieux éducatifs dont l'éducatrice ou l'enseignante utilise l'approche d'éducation par la nature jouent à différents types de jeux en nature. Le jeu symbolique est le jeu le plus souvent observé dans notre étude, ce qui correspond au stade de développement des enfants âgés de 4 à 6 ans, Bodovra et Ling, 2011, Vygotsky, 1978, 1933-2022. De plus, l'environnement extérieur, avec les éléments naturels, permettrait de susciter des jeux symboliques plus matures chez les enfants, Deneau et Hall, 2024. D'ailleurs, dans une recherche comparant des environnements naturels de cours de récréation et des cours de récréation sans environnement naturel, des chercheurs ont démontré que les jeux symboliques des enfants duraient plus longtemps et étaient plus matures dans les cours de récréation naturalisés en raison du matériel flexible, polyvalent, ouvert et naturel, Morisset et Hall, 2017. Les enfants s'engageaient davantage dans des rôles fantaisistes, utilisaient plus de transformations imaginatives et substituaient davantage les objets, Morisset et Hall, 2017, ce qui était aussi le cas dans notre étude. Le jeu de construction est également observé fréquemment dans chacun des milieux éducatifs. Ce type de jeu s'intègre souvent avec le jeu symbolique, puisque les enfants peuvent faire un aller-retour entre leur construction et un scénario imaginaire, Drew et Hall, 2008, Park, 2019, ce qui a aussi été le cas dans ce projet. Le temps de jeu passé en nature, mais aussi le fait que les enfants aient la possibilité d'utiliser l'environnement naturel, PX, branche, roche, pour construire un objet, PX, cabane, piège, sont deux éléments qui ont pu accroître le nombre de jeux de construction des enfants, Park, 2019. Les jeux les moins souvent observés en nature sont le jeu de règles, le jeu turbulent et le jeu risqué. En ce qui concerne les jeux de règles, ce type de jeu consiste souvent à des jeux de table, Filion, 2021. Il est donc normal que ces jeux soient moins observés en nature. Lors des observations, des enfants faisaient semblant de se chamailler, se bataillaient avec des épées représentées par des branches d'arbres ou encore grimpaient aux arbres et sautaient d'une grande roche. Les éléments naturels présents dans cet environnement offraient aux enfants un large éventail de possibilités de jeux risqués, Setken Akta et Sevimliselik, 2021. Même si dans cette recherche, les jeux turbulents et les jeux risqués étaient permis par les éducatrices et les enseignantes, il demeure que ces deux types de jeux sont souvent de moindre qualité et moins encouragés, et ce, même s'ils sont plus tolérés à l'extérieur, Storley et Sandsté, 2015. Cela s'explique notamment par l'importance accordée à la sécurité durant les jeux, par certaines restrictions émises par les adultes ou encore par les personnalités des enfants, Setken Akta et Sevimliselik, 2021, Sandsté, 2013. Le jeu symbolique pour s'exercer à la citoyenneté. Les résultats montrent que les jeux en nature offrent un contexte idéal aux enfants pour exercer leur citoyenneté. Plusieurs actions civiques sont mises en pratique par les enfants, et ce, pour chacune des composantes de la citoyenneté, identité civique, responsabilité collective, faculté d'agir, délibération civique et participation civique. Les éducatrices et les enseignantes de cette étude ont recours à certains principes d'éducation par la nature, comme la pédagogie émergente se centrant sur l'exploration et le jeu ainsi que l'éveil à la sensibilité écologique reposant sur une relation féconde avec la nature, Bouchard et Hall, 2022, ce qui encourage les actions civiques des enfants. Les participantes, en laissant les enfants explorer l'environnement naturel et jouer librement avec leurs pairs, soutiennent plusieurs des composantes de la citoyenneté. Les enfants découvrent, jouent, explorent, se posent des questions, délibèrent et s'entraident. Dans cet article, les trois jeux décrits mettent en évidence des actions civiques mises en pratique par les enfants en fonction des types de jeux, que ce soit le jeu symbolique, exploratoire ou de construction. Comme le souligne Baker et ses collègues, 2021, les jeux fournissent un contexte qui permet aux enfants d'être les premiers acteurs de leurs apprentissages et d'agir, notamment en s'engageant dans diverses actions, dans la mesure où ils ont le choix et l'intérêt pour le faire. Dans cette recherche, les jeux en nature, puisqu'ils ont offert une liberté d'action aux enfants, leur ont permis de s'engager dans des actions civiques. Ces résultats confirment les propos de la majorité des auteurs qui affirment que le contexte ludique d'apprentissage que représente le jeu est essentiel à la pratique de la citoyenneté chez les enfants, Adair, 2014, Adair et Hall, 2017, Payne et Hall, 2020, Chou et Hall, 2022. Par ailleurs, Dans cette recherche, les résultats font ressortir que le jeu symbolique et le jeu de construction sont deux types de jeux dans lesquels les actions civiques arrivent plus fréquemment. Comme nous l'avons évoqué dans la section précédente, cela correspond au stade de développement des enfants, à la fréquence de ces jeux observés ou encore à l'intégration de ces deux types de jeux. De plus, lorsque les enfants inventent un scénario dans un jeu symbolique, ils collaborent, s'inventent différentes règles qu'ils peuvent ajuster et modifier ou encore mettent en scène différents arguments et points de vue selon leur personnage. Ces différentes habiletés les aident à explorer leurs droits et à pratiquer leur citoyenneté, Elbert, 1996. Leur participation à des activités collaboratives et la promotion de leur prise de décision sont essentielles à la pratique de la citoyenneté, Sierra Cedillo et Al, 2019, ce qui est cohérent avec le jeu symbolique. Le jeu symbolique, qu'on soit dans un environnement naturel ou dans un autre contexte de classe, serait donc un contexte à privilégier pour encourager les actions civiques des enfants. L'espace vaste réservé aux jeux en nature, comparativement à l'espace restreint des jeux libres intérieurs, peut laisser penser que les enfants vont davantage collaborer et s'entraider. Dans cette étude, les enfants ont exercé leur citoyenneté sans la présence de l'adulte dans plusieurs jeux observés. Les enseignantes et éducatrices, en adoptant le rôle d'observatrice de ces jeux, laissent l'occasion aux enfants d'être autonomes, de s'entraider et de négocier les règles de leur jeu, Jacob et Al, 2025. Limites de la recherche et conclusion. Cette recherche comporte plusieurs forces, mais aussi des limites qui méritent d'être soulevées. Parmi les limites, nous savons que la caméra peut en partie influencer les jeux des enfants, Renin Sandru, 2020. De plus, seule la chercheuse ou une assistante de recherche était présente lors des observations filmées. Puisque l'espace naturel est vaste et étendu, et que les actions civiques peuvent être spontanées et subtiles et Richie et Lambert, 2018, il est tout à fait plausible de penser que d'autres jeux et actions civiques pouvaient se dérouler en parallèle de l'observation filmée. Deux personnes membres de l'équipe de recherche auraient pu être présentes pour contrer en partie cette limite, ce qui aurait pu nous permettre d'entrer dans notre rôle d'ethnographe et de joueur, Renin Sandru, 2020, Smith Brennan, 2017. Ce dernier rôle, où le chercheur joue avec les enfants si ceux-ci l'invitent, le mène à entrer plus facilement dans leur culture de communication et à établir une relation de recherche avec eux, E. Christensen, 2004, Koch, 2019. Par ailleurs, même si les membres de l'équipe de recherche pouvaient discuter à tout moment avec les enfants durant les moments passés en nature, un retour avec les enfants sur la documentation produite aurait pu permettre de recueillir d'autres données. Certains enfants s'expriment mieux verbalement que d'autres et certains auraient pu communiquer leurs idées d'autres manières, par exemple en dessinant, Renin Sandru, 2020, ou en prenant eux-mêmes des photographies, Philips et Al, 2020. L'importance de tenir compte de leur voix et de leurs paroles est une préoccupation des chercheurs en petite enfance, Marchi, 2018, Renin Sandru, 2020, et de ceux qui s'intéressent à la citoyenneté, Marche et Al, 2020, Philips et Al, 2020. Enfin, l'utilisation d'une grille pour observer et analyser les jeux en nature aurait pu rendre une analyse plus juste des données concernant les jeux en nature, Lobach et Cox, 2020. En recherche collaborative, le chercheur jongle avec différentes postures, que ce soit d'être plus en retrait, d'analyser des pratiques ou d'aider à les développer, Orususo et Al, 2020. Le concept de citoyenneté chez les enfants semble encore en exploration dans les milieux ayant participé à ce projet, mais cette collaboration représentait une porte d'entrée à la discussion et à la réflexion autour des moyens mis en œuvre dans les milieux. Les observations filmées se sont avérées être un véritable bénéfice pour les personnes éducatrices et enseignantes, qui ont pu voir la diversité des jeux et des actions civiques des enfants, se rassurer sur leurs pratiques et en découvrir de nouvelles. Le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise au primaire, EMEQ, 2024, demandera la création d'un pont afin que les personnes éducatrices et enseignantes à l'éducation préscolaire puissent mieux comprendre le concept de citoyenneté des enfants dans l'intention de le promouvoir, Richie et Lambert, 2018. D'autres recherches seront nécessaires pour mieux comprendre comment les enfants du Québec exercent leur citoyenneté dans différents contextes culturels, et ce, dès la petite enfance. La pratique même de la citoyenneté des enfants est contextualisée en fonction des différentes valeurs et cultures véhiculées dans chaque milieu, Adair et Al, 2017, Bat et Carlson, 2016. La reconnaissance de cette complémentarité, entre la recherche et la pratique, sera un atout pour le développement d'une posture professionnelle à la petite enfance, Pirard, 2021, et contribuera par la même occasion à former les futures personnes éducatrices et enseignantes.